Bonjour Lucille, bonjour à toutes et à tous. Et nous irons tout d'abord à la cour d'assises spéciale de Paris où ce matin une jeune femme a assuré que son mari, aujourd'hui présumé disparu, était le commanditaire des attentats de janvier 2015.
Après la décapitation de Samuel Paty il y a tout juste une semaine, un nouveau conseil de défense et de sécurité nationale présidé par Emmanuel Macron se tient depuis ce matin.
Oui, le chef de l'État a fait de ce dossier sa priorité absolue et entend bien muscler encore la loi contre les séparatismes. En attendant, les membres du gouvernement, eux, n'ont visiblement de cesse de désigner pour cible les islamo-gauchistes.
Nouvelle conséquence de la pandémie, le groupe Aéroport de Paris annonce ce matin avoir perdu plus de la moitié de son chiffre d'affaires depuis le début de l'année.
ADP qui revoit à la baisse ses hypothèses de trafic pour Paris avec une chute pouvant aller jusqu'à 70%. À l'étranger, nous reviendrons sur l'ultime débat hier soir entre Donald Trump et Joe Biden et nous demanderons si ce duel aura été de nature à modifier le cours de la campagne américaine. Nous irons également en Guinée où le président sortant Alpha Condé a été donné vainqueur dès le premier tour de l'élection présidentielle. Puis l'invité de la rédaction aujourd'hui, Henri Bergeron, sociologue, directeur de recherche au CNRS et co-auteur d'un livre intitulé « Covid-19, une crise organisationnelle » publié aux presses de Sciences Po. C'est un témoin clé que la cour d'assises spéciale pourrait a priori entendre aujourd'hui lors de cette huitième semaine de procès autour des attentats de janvier 2015. Son nom, Peter Sherif, présenté tour à tour comme un mentor des frères Kouachi, un cadre d'Al-Qaïda, mais aussi un vétéran du djihad et parfois même comme l'instigateur de l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo. Mais avant lui, et en attendant d'ailleurs de savoir s'il acceptera de se rendre à cette visioconférence, la Cour entendait ce matin une femme dont le témoignage permet aujourd'hui d'éclairer un peu mieux la piste des donneurs d'ordre. Florence Turm, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct du tribunal de Paris. Ce matin était donc entendue depuis la prison de Fleury-Mérogis où elle est incarcérée, Sonia Mejri, originaire de la Drôme, rentrée de Syrie en janvier dernier et mariée à un chef du groupe État islamique, aujourd'hui présumé mort, un homme dont elle répète, Florence, qu'il est le commanditaire des attentats de janvier 2015.
Elle apparaît à l'écran, main croisée sur la table devant elle, longs cheveux bruns, visage très pâle, t-shirt rayé et se prête de bonne grâce aux questions de la cour. Peu après son arrivée en Syrie en septembre 2014, elle a épousé un certain Abdel Nasser Ben Youssef, présenté comme l'émir des opérations extérieures du groupe État islamique. Elle confirme, il m'a expliqué qu'il s'était occupé d'organiser l'attentat de l'hyper-cacher, celui de Sid Ahmed Glam et un autre manqué en Belgique, qu'il avait recruté un médicoulibaly et qu'il avait d'autres contacts en France. Elle assure ne pas en savoir plus, cantonnée dans un rôle de femme soumise, je devais m'occuper du ménage et ne pas poser de questions. Avec très vite une désillusion totale, résume le président. Sonia Mejri acquiesce calmement, je subis c'est des viols de la part de mon mari, des choses interdites par l'islam comme la sodomie, je n'adhérais pas à l'esclavage des yézidis. Et si elle affirme avoir rompu avec l'idéologie djihadiste, ce n'est pas le cas d'Ayad Boumediene, la compagne d'Amédi Koulibaly, également accusée dans ce procès mais toujours en fuite. Elle l'a croisée à plusieurs reprises en Syrie. Ayad Boumediene lui a confirmé l'action coordonnée entre les frères Kouachi et Amédi Koulibaly. Pour elle, c'était Dieu qui faisait le ménage en quelque sorte, qui éliminait les mauvais et les hypocrites, poursuit le témoin. Elle avait aussi écrit une lettre d'encouragement aux soldats de Daesh. Une sorte de soutien aux troupes, interroge un magistrat. Oui, l'audition est presque terminée, mais c'est elle qui demande à délivrer un dernier message. Juste dire à Charlie Hebdo, c'est important que vous continuiez. Ne lâchez pas, vous représentez la liberté et c'est ce qu'il déteste le plus.
Merci Florence Sturm en direct du tribunal de Paris ainsi qu'à Jérémy Thuil pour les moyens techniques.
L'enquête sur la décapitation de Samuel Paty progresse.
Oui, l'exploitation du téléphone du tueur a notamment révélé des échanges avec deux interlocuteurs localisés près d'Idlib, dont un russophone. Leurs comptes sont en cours d'analyse. En revanche, leur rôle éventuel dans le projet d'assassinat du professeur reste encore à préciser. Par ailleurs, il ressort que depuis le printemps dernier, déjà le jeune Tchétchène se montrait très actif sur les réseaux sociaux. En analysant les données de son ordinateur, les policiers ont découvert qu'il possédait de nombreux comptes sur différents supports. Il avait d'ailleurs et à plusieurs reprises été repéré et même dénoncé par les utilisateurs pour ses propos extrémistes. Après signalement, les responsables de la plateforme Pharos dédiée au contenu illicite avaient transmis le dossier aux services spécialisés concernés, en l'occurrence l'unité de coordination de la lutte antiterroriste et en bout de chaîne la DGSI. Sauf que les propos litigieux portaient sur la situation internationale et ne visaient alors nullement la France, sans compter que le titulaire du compte ne figurait pas dans le fichier des personnes radicalisées et n'était pas davantage connu pour fréquenter des cercles islamistes radicaux, raison pour laquelle ces tweets n'ont pas été jugés prioritaires. Alors, y a-t-il eu des failles dans les services de renseignement ? Il appartiendra évidemment à l'enquête de le déterminer, seule certitude. Pour l'heure, l'effroi qui a suivi la décapitation de Samuel Paty aura surtout conduit à désigner un responsable, l'islamisme. Visiblement, dans la bouche de très nombreux politiques, il n'y aurait plus rien de choquant à désigner ainsi l'assassin. C'est le cas en particulier à droite et à l'extrême droite qui, tout en faisant assaut de propositions pas toujours nouvelles et parfois similaires, mettent la pression sur le gouvernement, lequel n'hésite pas, lui, à pointer aussi du doigt la responsabilité des islamo-gauchistes. Alors là encore, l'expression n'est pas nouvelle et désigne tous ceux qui, à gauche, permettraient, en somme, l'installation insidieuse d'un contexte favorable à la contestation de la laïcité. Quoi qu'il en soit, force est de constater que depuis quelques jours, l'expression ne cesse donc de gagner en visibilité. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Après que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a dénoncé hier l'islamo-gauchisme en prenant notamment pour cible le syndicat étudiant UNEF, mais aussi la France insoumise. Après que Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a lui critiqué le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, qualifié, je cite, de parti de la complaisance et de la laïcité honteuse. Ce matin, c'était donc au tour du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, de désigner pour cible les complicités dont bénéficierait en France l'islam politique à travers plusieurs partis, dont la France insoumise ou bien encore les Verts.
Alors qu'il y a tout juste une semaine, le chef de l'État appelait à l'unité du pays. Des voix d'abord venues du PS, celles de Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, se sont élevées pour dénoncer la gauche de la gauche, celle qui se montre tolérante avec l'islam politique par opportunisme ou par clientélisme. Depuis hier, le tir nourri vient de la majorité présidentielle. C'est d'abord le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui dénonce un islamo-gauchisme qui fait des ravages, prenant pour cible le syndicat étudiant UNEF et la France insoumise. Attaque renouvelée ce matin sur l'antenne d'Europe 1 par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.
Il y a le terrorisme et il y a l'idéologie qui est à la base du terrorisme, qui elle est beaucoup plus insidieuse, c'est l'islam politique. Qui a ses complicités depuis des années en
France. Elles sont où ces complicités ?
Elles sont dans les partis politiques. La France insoumise qui ne cesse d'excuser l'islam politique. J'estime que tous ceux qui aujourd'hui défendent, soutiennent, excusent l'islam politique sont complices de la volonté de cet islam politique d'abattre la nation française.
Alors si Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui la cible de ces attaques, c'est parce que celui qui se revendique républicain et laïcard est accusé de complaisance avec l'islam politique, parce qu'il a participé l'an dernier à une marche contre l'islamophobie et parce qu'il est l'un des probables candidats à la présidentielle de 2022. Objectif, isoler le leader de la France insoumise, manœuvre qu'il dénonce avec virulence ce matin. Jean-Luc Mélenchon a accusé Emmanuel Macron et le gouvernement d'avoir organisé une chasse aux sorcières. Ce débat sur la laïcité contre les communautarismes s'inscrit plus largement au sein de la gauche, avec une gauche qui défend une laïcité intransigeante, représentée par Laurent Bouvet, fondateur du Printemps Républicain, ou encore Caroline Fourest, et une gauche plus tolérante, incarnée par Jean-Luc Bianco, le président de l'Observatoire de la laïcité.
Merci Pierre Neveu.
Le mois de novembre sera éprouvant.
Oui, c'est sous ce sombre augure que le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier que 46 millions de personnes en France, soit les deux tiers de la population, seraient désormais concernées à partir de vendredi minuit par un couvre-feu pour faire face à une circulation du virus toujours extrêmement élevée. Hier et pour la première fois, la France a enregistré plus de 40 000 contaminations en seulement 24 heures, se rapprochant ainsi du seuil symbolique du million de cas. De son côté, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a précisé que ces mesures de couvre-feu auront un coût d'un peu plus de 2 milliards d'euros pour les finances publiques. Le coût économique et social de la crise sanitaire, toujours et encore ce matin, avec l'annonce, cette fois-ci par le groupe ADP, de son hypothèse de trafic pour 2020, revue à la baisse d'environ 60 à 70%. Adrien Toffolet, bonjour.
Bonjour.
Depuis le début de l'année et en raison de la pandémie, le groupe Aéroports de Paris aurait perdu plus de la moitié de son chiffre d'affaires.
Entre 2,3 milliards et 2,6 milliards de moins en 2020 et très concrètement, entre le bilan des 9 premiers mois de l'année et les perspectives, rien ne permet d'espérer une amélioration de la situation. Cet été, ADP, comme tout le secteur aérien, a espéré un temps, un rebond, mais tous ont été douchés froidement par la rentrée. En septembre, le trafic de Roissy-Orly n'a atteint que 25 5% de celui de septembre 2019. D'après Eurocontrol, le gestionnaire de la navigation aérienne en Europe, le nombre de passagers ayant transité par les aéroports français depuis le 1er mars a reculé de 78%, 100 millions de passagers en moins. Alors avec le regain de l'épidémie, ADP est très logiquement en quête d'économie. La direction s'attend à devoir à nouveau fermer des infrastructures, une annonce qui n'a pourtant rien de surprenant puisque c'est la dynamique qu'on observe un peu partout dans le monde, notamment chez les compagnies aériennes. Selon les dernières données de l'Association internationale du transport aérien, leur chiffre d'affaires a plongé de 80% au premier semestre. Les compagnies perdent environ 11 milliards de dollars par mois. Elles font donc tout pour baisser leurs charges. Chômage technique, par exemple, pour plus de 13 000 employés de United Airlines aux États-Unis. Cathay Pacific, en Asie, ferme sa grosse filiale régionale, Cathay Dragon. 17% des effectifs du groupe supprimés. Le secteur espère encore un coup de pouce des États qui leur ont déjà distribué 135 milliards d'euros de soutien divers. Ils comptent surtout sur le déploiement des dépistages avant l'embarquement pour faire revenir des clients qui freinent des quatre fers à l'idée de devoir être placés en quarantaine arrivés à destination. Mais malgré cela, selon les dernières prévisions du secteur, la situation ne reviendra au niveau de 2019 que fin 2023.
Merci Adrien Toffolet. Face au marasme économique, les autorités se refusent pour leur décréter un reconfinement du pays le plus touché par la pandémie au Moyen-Orient. Et pourtant, jamais en Iran, les bilans journaliers des victimes du Covid-19 n'ont été aussi élevés, au point que les médecins, Yoram Meloulm, parlent désormais d'une troisième vague et craignent de ne pas réussir à y faire face.
Il faut dire que les chiffres officiels sont alarmants. 304 morts hier, 312 la veille et 337 lundi, un record depuis le début de l'épidémie. Au Moyen-Orient, c'est de loin le pays le plus touché par la maladie et ça ne semble pas près de s'arrêter. Le virus continue de progresser avec plus de 5000 nouveaux cas quotidiens ces derniers jours. Mais difficile de savoir où en est vraiment l'épidémie. Pour certains observateurs, les autorités donnent des chiffres sous-évalués. Ce qui est sûr, c'est que ça va mal. Hassan Rouhani, le président iranien, le dit lui-même. Le pays combat une vague plus vaste que les précédentes. Face aux internautes qui évoquent des hôpitaux saturés où trouver une place devient compliqué, le gouvernement se veut rassurant. Il leur répond « Évitez le stress, il y a suffisamment de lits pour accueillir les patients Covid ». La réalité, c'est aussi que les autorités n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Le port du masque est déjà obligatoire dans tout le pays. Les écoles, elles, sont fermées depuis début octobre. À Téhéran, la vie culturelle est à l'arrêt, mais rien n'y fait. Le gouvernement ne peut pas se permettre de confiner sa population. Avec les sanctions américaines et la mauvaise gestion du pays, l'économie est déjà au plus mal. Elle ne le supporterait tout simplement pas. Alors, entre crise économique et sanitaire, l'Iran se retrouve pris dans une équation impossible.
Il est 12h43, suite de votre journal Thomas Cluzel. Aux États-Unis, pendant une semaine, Donald Trump avait accusé sur tous les tons Joe Biden de corruption au sujet des activités de son fils.
Et comme attendu hier soir, donc sur la scène de Nashville, le candidat républicain n'aura pas tardé à porter l'attaque frontalement, sans pour autant faire bouger les lignes de défense érigées par son adversaire, lequel a vigoureusement démenti toute malversation. De son côté, de manière tout aussi attendue, Joe Biden a étrillé Donald Trump sur sa gestion de la crise du coronavirus, mais aussi sur sa politique migratoire. En revanche, le candidat démocrate a sans doute pris un vrai risque politique en assumant vouloir se détourner à terme de l'industrie pétrolière. Alors, cet ultime débat aura-t-il été de nature à faire bouger les lignes? On aurait tendance à dire de manière assez habituelle que non, et en particulier parce qu'il aura une fois de plus laissé entrevoir deux visions diamétralement opposées de l'Amérique. Il n'en reste pas moins que pour l'actuel locataire de la Maison Blanche, à la traîne dans les sondages, ce débat était sa dernière chance pour espérer modifier la dynamique actuelle de cette campagne. Et manifestement, cela n'aura pas été le cas, même si bien évidemment ses fans, eux, pensent tout le contraire, comme a pu s'en rendre compte notre envoyé spécial Claude Guibal, laquelle a suivi ce débat hier soir avec des supporters républicains dans une banlieue cossue de Cleveland.
Même pas le temps de dire ouf, à peine est-on entré dans ce bar de la banlieue de Cleveland qu'on se jette sur vous pour vous serrer la main. Dans la salle, à peine quelques masques, ici on ne craint pas le virus, encore moins les démocrates. Donald Trump est en terrain conquis. Il s'en sort bien ce soir, explique cet homme. Le premier débat, dit-il, c'était pas bon, ils n'arrêtaient pas de se couper la parole, ça a braqué beaucoup de gens. Ce soir, il est passé à autre chose, il laisse Biden parler. Et tout le monde sait que plus Biden parle, plus il commet d'erreurs. Dans la salle, un homme âgé lève les yeux chaque fois que Joe Biden parle d'assurance santé ou de réduire les émissions de gaz carbone. Ça ne fait aucun sens. Pour lui, le programme de Biden ne fera qu'augmenter le fardeau des familles modestes et d'ajouter, il ne dit pas la vérité.
à côté, Frank acquiesce. Lui, il a aimé surtout une chose dans ce débat. Lorsque Trump s'en est pris à Biden et à sa famille, des délinquants professionnels avec toute leur corruption exposée au grand jour. Il en est certain, Frank, au lendemain de l'élection, l'Amérique se réveillera avec de bonnes nouvelles. Autour des tables, on reprend une bière, on refait le débat. Dehors, un homme remet son masque. Dessus, il est écrit « Aussi inutile que Joe Biden ».
Voilà un reportage à Cleveland signé Claude Guibal. Même si le conflit dans l'enclave arménienne du Haut-Karabakh a diminué d'intensité avec l'arrêt des bombardements azerbaïdjanais sur la capitale Stepanakert, les combats continuent toutefois sur la ligne de front avec un élément nouveau pendant le ballet diplomatique de cette fin de semaine, le positionnement de soldats russes à proximité du conflit près de certaines frontières de l'Arménie. C'est une correspondance à Erevan de notre envoyé spécial Claude Brouillot.
Pendant que les ministres arméniens et azerbaïdjanais des affaires étrangères étaient reçus séparément à Moscou hier par leur homologue local Sergueï Lavrov, des soldats russes, pour la première fois depuis la reprise du conflit le 27 septembre, ont pris position hier, juste avant l'accès au corridor de Latchine, unique point de passage stratégique entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, théâtre de concentration de troupes et de matériel militaire depuis 2 jours. Même déploiement militaire russe près de la frontière sud de l'Arménie, autant de présence issue de la base militaire russe de Gyumri, au nord-ouest du pays, qui indique que le Kremlin prolonge par des actes son intention de piloter un mécanisme de vérification du cessez-le-feu, sans qu'il soit question pour l'instant du moins des Occidentaux. Ce positionnement russe, tout près de la zone du conflit, n'a pourtant qu'une valeur symbolique. Elle ne réduit surtout pas la pression azérie soutenue par la Turquie sur le corridor de Latchine, régulièrement bombardé, pression qui scellerait l'encerclement du Haut-Karabakh si les Arméniens venaient à en perdre le contrôle dans les jours ou les semaines à venir.
Après que les Guinéens auront réussi tant bien que mal à retenir leur souffle dans l'attente du décompte de leur voix au premier tour de l'élection présidentielle dimanche dernier, les esprits vont-ils désormais s'échauffer avec la publication hier soir des résultats préliminaires mais quasi complets créditant le candidat sortant Alpha Condé de la majorité absolue. Déjà, l'éventualité même d'un troisième mandat consécutif pour l'octogénaire avait provoqué une année durant de très vives tensions, autant dire que la contestation par l'opposition de la régularité du scrutin laisse craindre le pire. Les précisions de Nathanaël Charbonnier.
C'est comme si le scénario était écrit d'avance. On savait que l'opposition annoncerait sa victoire dans la foulée d'élections. On savait qu'Alpha Condé, le président sortant, attendrait quelques jours avant de se voir désigner vainqueur. Et l'on savait que les deux camps s'affronteraient dans la rue. On compte déjà de nombreux morts partout dans le pays. L'épisode de ce vendredi, c'est donc cette victoire annoncée d'Alpha Condé, qui se permettrait même d'assurer dès le premier tour sa réélection. Les résultats promulgués concernent 37 circonscriptions et représentent plus de 5 millions d'électeurs sur les 5 400 000 inscrits, autant dire que les dés sont jetés. Sans surprise, l'opposition parle de fraude à grande échelle afin de priver son candidat de la victoire, mais elle n'est pas suivie par les instances africaines qui estiment que dans l'ensemble, l'élection s'est bien déroulée. Reste à savoir si elles maintiendront leur jugement sur le dépouillement des résultats, d'autant que de nombreux incidents sont déjà signalés à Conakry, mais aussi dans différentes provinces. Certains parlent même de pays en guerre.
L'invité de la rédaction aujourd'hui, Henri Bargeron, sociologue, directeur de recherche au CNRS et co-auteur d'un livre intitulé « Covid-19, une crise organisationnelle » publié aux presses de Sciences Po. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour.
Alors depuis le confinement décrété dans l'urgence, c'était en mars dernier, vous avez mené donc avec 3 autres sociologues une quarantaine d'entretiens avec des acteurs de la crise et analysé les mesures prises par les pouvoirs publics pendant cette épidémie, des entretiens qui révèlent plusieurs dysfonctionnements. Une première question, monsieur Bergeron. Hier soir, le Premier ministre a annoncé donc l'extension du couvre-feu, un total de 54 départements et un territoire d'outre-mer. Est-ce selon vous une bonne solution ou bien diriez-vous que ces confinements nocturnes révèlent là encore un dysfonctionnement dans la stratégie des pouvoirs publics?
Je suis pas un spécialiste de santé publique, donc c'est pas une réponse. J'aurais pas une réponse pour vous dire si ça fonctionne ou pas. Ce que je peux en revanche souligner, c'est que comme pour le confinement qui a eu lieu en mars, ce sont des décisions sur des solutions qui n'ont jamais été prévues ni par les plans de pandémie grippale, ni par aucun dispositif, j'ai envie de dire, de préparation à des crises de cette nature. Dysfonctionnement, je ne sais pas. Ce qui nous interroge finalement, c'est pourquoi dépenser autant d'énergie à se préparer, à constituer des plans de préparation, à prévoir que ces plans de préparation implique toutes sortes d'organisations, d'organisations à la fois opérationnelles, mais aussi des organisations expertes, pour finalement, en tout cas comme ça l'a été en mars, assez peu les mobiliser.
Justement, Henri Bergeron, comment est-on passé d'un sentiment de préparation et de calme face à cette crise qui s'annonçait, à une mesure aussi inédite et lourde comme le confinement ?
Il y a beaucoup d'éléments qui permettent d'expliquer ça. J'ai envie de dire que la décision qui a été prise d'adopter un confinement, elle a été prise à un moment où la situation de décision était très contrainte. Alors il y a des contraintes, j'ai envie de dire, dont le gouvernement actuel a hérité, qui sont le désarmement progressif en masque, par exemple, qui sont aussi le manque de réactifs, le manque de tests, le manque d'écouvillons. Tous ces éléments-là, on ne peut pas dire que ce soit le gouvernement qui soit directement responsable de ces difficultés qui ont pesé sur la prise de décision. Puis, il y a des contraintes qui ont pesé sur cette décision, qui ont en partie contribué, que le gouvernement a en partie contribué à créer. Notamment le fait de décider de la création d'un conseil scientifique qui, lui non plus, n'était prévu par aucune procédure, par aucun plan de préparation, et qui est, grosso modo, un conseil scientifique très orienté sur la question de l'hôpital, très hospitalo-centré, même si on compte aussi les représentants des sciences sociales à l'intérieur de ce conseil scientifique.
Et vous expliquez d'ailleurs dans votre livre que donc beaucoup de nouvelles instances ont été créées dans un pays qui en est déjà saturé. Pourquoi est-ce que l'État multiplie ces organisations ? Qu'est-ce que ça dit de notre gestion de la crise en France ?
Alors ça, c'est un réflexe que nous, on appelle le réflexe technocratique, un réflexe typiquement français, et qui consiste à la fois, et c'est assez paradoxal, à se méfier des organisations existantes. Je pense que le gouvernement, nos entretiens tendent à le montrer, même si on a besoin de plus d'éléments. Le gouvernement se méfiait des organisations qui doivent gérer, qui ont dû gérer des crises, notamment la tempête Irma. Je crois que le gouvernement n'était pas du tout satisfait de la façon dont les organisations en charge de la gestion de cette crise avaient procédé. Et puis en même temps, donc on se méfie des structures existantes. Et puis en même temps, la réponse, pense-t-on, à des difficultés de coordination, c'est la création de nouvelles structures.
Donc on ne tire jamais vraiment de leçons du passé concernant la gestion des crises.
Écoutez, alors nous, c'est vraiment ce qui nous a frappé, c'est que finalement, chaque crise appelle son rapport parlementaire, chaque crise appelle son rapport d'inspection, mais finalement, chacune des crises est évaluée de manière individuelle. Et il n'existe pas, en tout cas à notre connaissance, d'exercice de comparaison de la gestion de différentes crises, de crises qui peuvent paraître très différentes à première vue, une tempête, un ouragan, une crise épidémique. C'est effectivement très différent, mais pourtant il y a des éléments communs. Et de ces éléments communs, on peut tirer les bonnes pratiques et il n'y a pas d'exercice consolidé de comparaison de la gestion des différentes crises. Donc de ce point de vue-là, effectivement, on a l'impression que des retours d'expérience ne sont jamais réellement réalisés.
Alors à l'avenir, comment mieux faire ? Quelles pistes proposez-vous ?
Ben justement ça, c'est-à-dire que l'une des choses qui nous paraît nécessaire, c'est de pouvoir se mettre en condition d'étudier la façon, en temps réel le plus souvent, à chaud, d'étudier la façon dont est gérée la crise. Non pas pour dénoncer des dysfonctionnements, mais pour comprendre là où ça n'a pas marché et comprendre là où ça a marché, afin d'en tirer les bonnes pratiques. Et puis le faire, j'ai envie de dire, de manière un peu scientifique en avance, va permettre de le faire sur plusieurs crises, et de plusieurs crises, on va pouvoir accumuler des savoirs qui, j'espère, seront très utiles pour l'action publique de demain.
Merci Henri Bergeron, sociologue, directeur de recherche au CNRS, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre du livre que vous avez coécrit aux presses de Sciences Po, Covid-19, une crise organisationnelle. Merci également à Margot Delpierre. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi variable. Avec de belles éclaircies entrecoupées par de rares averses sur le nord et le nord-ouest, le ciel s'éclaircira davantage encore sur les rivages méditerranéens. En revanche, partout ailleurs, le temps sera plus agité et souvent pluvieux. Quant aux températures, elles afficheront entre 15 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue et à 18h, vous avez rendez-vous avec Annabelle Grelier pour le prochain journal de la rédaction.